la ville, nos villes, c'est un peu comme notre humanité prolongée dans sa dimension sociale, politique. La ville, c'est nous en relation avec tous les autres. Et ici, en Apocalypse 21 et 22, c'est le nous, mais entièrement recréé, renouvelé, expurgé de toute forme de mal. Cette ville que nous allons visiter ce matin est le symbole de notre humanité nouvelle, notre humanité selon le cœur de Dieu. Par cette magnifique symbolique de la ville, Jean stimule notre imaginaire, en tout cas le mien. Dans cette symbolique urbaine, la vie n'est pas une liste de choses à faire. Il n'y a pas de liste d'injonctions pratiques à la sainteté, par exemple. C'est un monde nouveau qui est donné d'en haut et qui stimule nos rêves et aussi nous encourage à un nouveau vivre ensemble. Premièrement, la ville, elle a un nom. Vous avez remarqué comment elle s'appelle ? Oui ? Oui, la Nouvelle Jérusalem. C'est un nom connu quand même. Hein. Jérusalem, ça voudrait dire, il y a plusieurs possibilités, mais ça veut dire la demeure, le fondement ou la source de la paix. Et force est de constater que Jérusalem n'a jamais été, au cours de ses 5000 ans d'histoire, une source de paix. Au contraire, elle a été et elle reste un lieu d'hypertension, de conflits permanents, internes, internationaux. C'est ironique et tellement fort en même temps. La ville de toutes les jalousies, protégée par les remparts et les armes, va enfin trouver sa vocation de ville, de source de la paix. Une paix qui vient d'en haut, du ciel, et qui descend. Une paix qui est donnée. Chacun de nous est appelé à devenir un petit Yerushalayim, Jérusalem. Une source de paix. Et même de double paix, parce que Shalayim, Yerushalayim. Shalayim, c'est la paix, salam, shalom, au duel, en double. Nous sommes appelés à devenir une source de double paix pour tous ceux qui s'approchent de nous. Nous sommes appelés à vivre dès à présent la réconciliation avec tous. Alors voyons maintenant un peu comment est construite cette Jérusalem nouvelle, symbole de notre humanité nouvelle en Christ. Et la première chose qui frappe mon attention, c'est la grande muraille avec ses 12 portes. La muraille et la porte, ça symbolise des choses différentes et peut-être même un peu paradoxales. La muraille, c'est une force, c'est une défense. Et la porte, c'est une ouverture, c'est une confiance. En plus, elle est ouverte, là. La muraille, c'est mon identité chrétienne. Je n'ai pas une foi caméléon qui prend toutes les formes, toutes les couleurs, en fonction de mes interlocuteurs, qui sont tour à tour agnostiques, musulmans, juifs ou autres. Non, la muraille dit qui je suis. Paisiblement, sans peur, mais avec assurance et clarté. On ne peut pas être source de paix si on n'a pas une identité, une personnalité bien construite. L'eau de notre source ne doit pas être tiédasse, mais fraîche, vivifiante. Avoir des murailles, c'est en somme se connaître et s'aimer soi-même, comme être humain et comme chrétien. Et je ne crois pas qu'il y ait un accueil possible, un accueil véritable de l'autre, sans une connaissance et une estime de soi véritable. Cette muraille, c'est notre identité, et elle est très détaillée dans le récit. Elle est de jaspe, on peut mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Elle est de jaspe, c'est un terme assez général dans le domaine de la bijouterie et des pierres précieuses, pour désigner un petit peu tout ce qui est pierres précieuses. Les remparts, vous allez la voir, hein, normalement elle est là, la petite diapo des jaspes. Merci. Oui, voilà. Elles sont de Madagascar, celles-là. Ces remparts sont scintillants, de mille couleurs, et très agréables à l'œil. Ces remparts disent quelque chose de la personnalité du chrétien et aussi de l'Église du Christ. Par notre témoignage, nous sommes appelés, et aussi notre personnalité, notre façon d'être, nous sommes appelés à devenir des diamants bruts pour les autres. Rien que ça. Frères et sœurs, nous sommes des brillants ambassadeurs du Christ sur la terre. Mais, restons encore sur ces murailles, le témoignage du chrétien ne se résume pas à un charisme personnel, une belle identité, une belle sensibilité spirituelle. Il y a plus. Alors ça, c'est très à la mode, hein, de dire qu'on est dans une très belle, qu'on a du charisme, qu'on a une très belle personnalité, bien construite. Mais ce n'est pas ce qui est écrit sur les remparts de la ville nouvelle. Il n'y a pas écrit mon nom, en gros. Sur ces remparts sont inscrits les noms des 12 apôtres et aussi des 12 tribus d'Israël. Nous n'avons pas à inventer notre témoignage de foi. Il n'est pas seulement fondé sur notre témoignage personnel, notre rencontre personnelle avec le Christ. Il est également fondé sur le témoignage de ceux qui ont suivi le Christ avant nous, à commencer par le peuple d'Israël et par les apôtres. Notre rempart est fondé, pour le dire autrement, sur les Écritures saintes, Ancien et Nouveau Testament. Pas seulement sur notre, voyez, sur notre feeling spirituel. Notre foi doit être biblique, avec tout ce que cela suppose, comme travail de lecture, d'écoute, d'interprétation, de tâtonnement, de découverte, et de questionnement, et de conviction. La parole biblique façonne notre foi et elle nous équipe pour discerner et combattre les contrefaçons de la foi. Nous sommes appelés, nous sommes rappelés ici à notre engagement de lecteur de la Bible. Pour devenir source de paix, il nous faut, comme le peuple d'Israël à Mériba, il nous faut quitter Rephidim et nous abreuver à la source des Écritures. Notez qu'il y a 12 apôtres. Pas seulement les quatre bien connus, là, hein, Pierre, Paul, Jacques et Jean. On cite toujours ceux-là, ils ont écrit, il faut dire. 12 apôtres pour dire toute la diversité de sensibilité et de lecture, de force et de faiblesse au sein même de notre Église, de notre communauté, en notre personne également. Qu'est-ce que vous diriez des 8 apôtres inconnus, là, ou des 6? On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont apôtres, comme vous, comme moi. Notre ville sainte n'est pas seulement une muraille, une forteresse. Ça peut faire peur, hein. Croire en Jésus, ce n'est pas s'enfermer dans un bunker ecclésial. Il y a 12 portes, toujours ouvertes. La vie chrétienne, l'Église, n'est pas un camp retranché. Nous sommes invités à sortir de chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir de chez nous? De nos conforts théologiques, communautaires, on est bien ensemble, pour vivre l'inconfort de la rencontre, pour visiter l'autre, pour nous laisser visiter par lui. Les portes ouvertes sont faites pour sortir, oui, mais aussi pour entrer ou pour laisser entrer. L'Église doit rester ouverte à toutes celles et ceux qui cherchent Dieu, quel que soit leur fardeau, leur style de vie, leur façon d'être, leur souffrance. N'attendons pas qu'ils nous ressemblent pour les accueillir, ceux qui entrent ici. Ils seront déjà repartis avant même que nous ayons appris à les connaître, si nous attendons cela. Il est temps de redécouvrir cette vocation du chrétien comme phare dans la nuit. Phare dans la nuit et aussi le chrétien au cœur grand ouvert. Il est précisé que ces 12 portes sont certes ouvertes H24, mais, vous l'avez vu, hein, elles servent de filtre à l'entrée, ces portes. Il n'y entrera aucune souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge. La nouvelle création dont l'Église est déjà le germe est donc appelée au discernement. Ce mot est très important ici. Tout ce qui entre dans nos vies, tout ce qui entre dans nos communautés ecclésiales, dans notre Église, n'est pas bon. Et quelquefois, sans même qu'on s'en rende compte, de manière très insidieuse, le mensonge, la souillure, entre à plein camion. L'individualisme, qui est l'idolâtrie de soi, qui isole et qui tue à petit feu l'esprit communautaire. La lobotomisation des esprits et du sens critique, qui sont passés au rouleau compresseur des influenceurs du web. L'indifférence à la souffrance des plus faibles et à la maltraitance de notre planète. La fascination pour l'argent, la course au confort et à la surconsommation. Chacun peut ajouter les exemples qu'il veut de mensonges, de souillures, d'abominations. La liste est infinie. Je note toutefois que ce travail de vigilance, de discernement, à l'entrée de la ville sainte, pour ne pas laisser entrer n'importe quoi, ce n'est pas un travail de filtrage sectaire. Et ça, c'est très important. Les rois des nations, un peu comme les mages, vous vous souvenez, hein, les mages venus d'Orient, qui avaient vu de la lumière et qui sont entrés, les mages des nations apportent leur gloire. dans la ville nouvelle. Il y a là quelque chose d'étonnant et de réjouissant à la fois. Ces rois étrangers qui entrent dans la ville, apportant avec eux la gloire de leurs ethnies, ethnon, c'est les nations, c'est le mot grec. Ils entrent avec leur culture, mais aussi sans doute avec leur recherche de Dieu. Cette entrée doit nous interroger sur la dimension universelle du salut en Jésus-Christ. Ne soyons pas trop prompts à délimiter les frontières du salut. C'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre. Et vous voyez que dans cette ville, il y a des gens qui arrivent là, auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Hein. Des étrangers, des nations. Voilà pour les contours de la ville. Il reste à visiter rapidement l'intérieur. C'est une ville qui est en or pur, semblable à du pur cristal. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je me dis que c'est beau. Si c'est bien de nous qu'il est question dans cette symbolique de la ville en or, ce qui est dit là est simplement merveilleux. Vous savez, l'or dans la Bible, c'est pas tellement quelque chose qui... Enfin, c'est pas de la richesse. Hein. Ça l'est aussi, bien sûr, mais c'est le symbole de la vie du croyant qui est épurée de tout mal. C'est ça, l'or. J'entends Job qui plaide sa cause devant l'injustice qu'il ressent et qui dit à Dieu, « Dieu connaît mon chemin, et s'il m'éprouve, je sortirai pur comme l'or. » Et je pense aussi aux paroles de Paul aux Corinthiens quand il affirme qu'au dernier jour, tout ce que nous avons construit sera éprouvé par le feu. L'or, l'argent, jusqu'aux constructions de paille. Il ne restera de nous que ce qui est passé par le creuset de la purification, et pour certains, pas grand-chose. Mais suffisamment pour prendre une petite place, petite goutte d'or dans la ville nouvelle, dans la ville de cristal. Ces textes disent à la fois l'exigence de Dieu et aussi son espérance folle en notre entrée dans la ville nouvelle. Dans le regard de Dieu, nous sommes beaux, sœurs et frères. Nous sommes saints, nous sommes lumineux, nous sommes aimés, nous sommes un cadeau en or. La visite est presque finie. J'en ajoute un dernier élément. Au milieu coule une rivière. Et au milieu coule une rivière. Nous avons été préparés à cette image par les textes qui ont été lus tout à l'heure par Valérie. La ville de notre être nouveau, attaché à Jésus, l'agneau de Dieu, et qui est cet être qui est définitivement libéré du mal. Eh bien, ce cœur, cet être, cette ville est irrigué par un fleuve qui est chargé de toutes les bénédictions. Au centre de nos existences coule la rivière de Dieu. Un arbre pousse des deux côtés du fleuve en même temps. Ça, c'est un drôle d'arbre. Hein. Ne me demandez pas d'expliquer d'ailleurs comment un fleuve peut pousser des deux côtés, un arbre peut pousser des deux côtés d'une rivière. Eh bien, c'est l'arbre qui était au centre de l'Éden primordial, l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre pousse au centre-ville, c'est-à-dire au cœur de nos existences. Il est source de guérison pour toutes ces malédictions, ces souffrances, ces incompréhensions qui cherchent à prendre le pouvoir, ces révoltes, le pouvoir dans nos vies. Cet arbre, c'est la présence de Dieu en nous, sans intermédiaire. Il règne, lui-même, au cœur de nos vies. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même plus besoin de temple, plus d'église. La religion, comme le disait Karl Barth, théologien, grand théologien du XXe siècle, protestant, disait que si la religion est pétrie de bonnes intentions, elle manque toujours la cible. Pour Barthes, la religion chrétienne, c'est la fin de la religion. J'aime beaucoup ça. C'est ce que nous entendons ici. Plus de temple dans la nouvelle ville. Plus de religion. La réconciliation véritable, totale avec Dieu, n'a besoin de rien d'autre que la présence aimante, bénissante du Christ au cœur de notre vie, comme cet arbre de la vie éternelle. Voilà les plans de cette ville à laquelle nous appartenons déjà, frères et sœurs, que nous sommes déjà, chacun d'entre nous, en espérance. Nous y puiserons les forces et la joie de devenir source de paix pour celles et ceux que nous aimons, et peut-être même aussi pour celles et ceux que nous avons du mal à aimer. Alors que le Seigneur répande sur chacun la lumière de ce salut qui vient et qui nous accorde sa paix, qu'il fasse de nous des sources de paix. Amen.